Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 9 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, échange de tirs nourris dans le quartier de la résidence présidentielle entre un groupe armé et des casques bleus.
Au Mali, l'armée dément avoir sommairement exécuté 14 détenus dans le centre du pays.
Entretien à Ouagadougou entre une délégation de sénateurs américains et le président burkinabé, Marc-Christian Caboret.
Les États-Unis démentent être responsables de l'attaque au missile tôt ce matin contre une base aérienne dans la province de Homs, en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, des échanges de tirs nourris ont éclaté dans la nuit de dimanche à Bangui, dans le quartier de la résidence présidentielle, entre un groupe armé et des casques bleus, selon l'AFP, citant une source sécuritaire. Des tirs ont eu lieu dimanche soir, entre 23h et 23h40, alors qu'un groupuscule armé était arrivé au niveau de la radio Ndekeluka, à côté de la route qui mène à la résidence du président. Le groupe a été repoussé par les casques bleus égyptiens, a déclaré cette même source. Cet affrontement survient alors qu'une opération conjointe des casques bleus de la MINUSCA et des forces centrafricaines vise le quartier du PK5 à Bangui depuis ce dimanche pour démanteler des groupes armés.
11 casques bleus de la MINUSCA, en majorité des Égyptiens, ont été blessés hier dans cette opération qui a conduit à de violents affrontements dans ce grand quartier musulman. Sur place à Bangui, Freeman Sipila.
Dimanche, aux environs de 2h du matin, les casques bleus de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure centrafricaines quadrillent le PK5 et lancent une opération militaire contre la bande d'Almir Matar, connue sous le pseudo de force. Ce groupe armé avait déjà menacé de se battre contre la force onusienne si elle tentait de le désarmer. Après plusieurs heures de rudes affrontements marqués par des tirs à l'arme lourde et légère et d'explosions de grenades, les forces nationales et internationales quittent le front. Quelques heures plus tard, la MINUSCA donne un premier bilan. Hervé Verroussel, son directeur de communication.
Au niveau du bilan, en tout cas au niveau des blessés, malheureusement, côté MINUSCA, 11 blessés à déplorer. Après des échanges de coups de feu, nous avons pu prendre possession de ces bases, nous avons pu confisquer de la drogue, des armes, mais également opérer 8 arrestations. La MINUSCA a d'ailleurs remis ces personnes arrêtées à la police et à la gendarmerie.
Selon des sources hospitalières, 2 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées. Jusqu'à dimanche soir, le PK5 était toujours contrôlé par les bandes armées, soutenues par une frange de la population. S'agit-il d'un échec? La MINUSCA et les autorités centrafricaines assurent que l'opération suspendue pour l'instant se poursuivrait jusqu'à ce que ces groupes criminels soient démantelés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Mali, controverse sur la mort de 14 civils dans le centre du pays. Leurs parents parlent d'exécution sommaire, alors que le gouvernement soutient que ces personnes étaient en possession d'armes de guerre. Précision de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Ce sont les femmes en courant qui sont venues informer les habitants de Djoura que les femmes ont arrêté 14 hommes sur le pâturage du village. C'est après que les informations sont parvenues aux populations que les 14 hommes ont été exécutés par les militaires maliens. C'est pour cela que l'association des PEL et les proches des 14 suspects tués ont alerté les autorités. Les parents des 14 suspects ont dénoncé une exécution sommaire. L'armée malienne parle d'une tentative d'évasion pendant laquelle les 14 suspects qu'ils qualifient de terroristes ont trouvé la mort le 6 avril 2018 à Djoura. Dans un communiqué le dimanche soir, le ministre de la Défense, Tienan Koulibaly, a exprimé sa vive préoccupation à la suite de la mort à Djoura. Des suspects terroristes arrêtés le 5 avril en possession d'armes de guerre, dit-il, sans mentionner une éventuelle tentative d'évasion. Le procureur, selon le ministre, a été saisi pour diligenter une enquête appropriée de manière à faire toute la lumière sur cet incident et traduire les éventuels auteurs en justice. Selon les textes, le ministre enjoint les forces armées à poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens avec professionnalisme dans le strict respect des droits de l'homme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Une délégation de sénateurs américains a séjourné hier au Burkina Faso. Les parlementaires ont rencontré le président burkinabé pour échanger sur les défis auxquels son pays est confronté, la lutte contre le terrorisme, le développement économique et la lutte contre certaines maladies comme le paludisme ou le VIH-Sida. De Ouagadougou, compte rendu du correspondant de VOA Afrique, Lamine Traoré.
5 sénateurs, 4 démocrates et 1 républicain ont été reçus dimanche soir au palais de Kossiam. La délégation des sénateurs a discuté une heure durant avec le président du Faso. Elle dit venir saluer les efforts du président Kabore en matière de lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso a fait face à de nombreuses attaques et face à ces attaques, il y a toujours eu une réaction des forces militaires, de la population, a déclaré à la fin de la visite le sénateur Christopher Cohn, porte-parole de la délégation. Les États-Unis disent être au côté de ce pays qui a essuyé de nombreuses attaques depuis l'avènement du nouveau pouvoir en janvier 2016. Il a aussi été question de développement et de relance économique du Burkina Faso. Aussi, les États-Unis disent renforcer leur action dans différents domaines avec le Burkina Faso, la lutte contre le paludisme et la lutte contre le VIH-Sida. Avant le Burkina Faso, ces sénateurs étaient au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Niger. Cette étape du Burkina Faso marque la fin de cette tournée. C'est la plus importante délégation des sénateurs américains à visiter le Burkina Faso. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les médias d'État signalent une attaque au missile tôt ce matin contre une base aérienne dans la province de Homs, disant qu'elle a fait un certain nombre de victimes. Washington dément avoir lancé de telles attaques en Syrie. Le porte-parole du Pentagone souligne que les États-Unis continuent de suivre de près la situation et appuient les efforts diplomatiques actuels pour tenir ceux qui usent d'armes chimiques en Syrie responsables de leurs actes. Le porte-parole américain fait allusion ici à l'attaque chimique présumée commise samedi à Douma en Syrie et qui a fait des dizaines de morts, suscitant un tollé général. Le président Donald Trump a averti Bachar al-Assad et ses alliés qu'il faudra payer le prix fort pour ce bombardement. Le régime de Damas n'est en bloc, mais ce lundi, le Conseil de sécurité va se réunir en urgence. Cette réunion a été réclamée par la majorité des membres du Conseil de sécurité, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Côte d'Ivoire. La Russie dément tout recours de Damas aux armes chimiques en Syrie, alors qu'un conseiller de Donald Trump a déclaré qu'une action militaire n'était pas à écarter. Moscou met en garde Washington contre une intervention militaire pour des prétextes fabriqués en Syrie qui pourraient mener aux plus lourdes conséquences. Il y a un an, le 7 avril 2017, le président américain avait fait bombarder une base du régime syrien en représailles à une attaque au gaz sarin qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun dans le nord-ouest. Les Américains, par la voix de Nikki Haley, l'ambassadrice à l'ONU, demandent un accès immédiat pour les secouristes ainsi qu'une enquête indépendante sur ce qui s'est passé. La France a affirmé qu'elle assumerait toutes ses responsabilités après cette attaque chimique présumée, alors que Paris a plusieurs fois menacé de frapper des objectifs militaires syriens en cas d'usage avéré d'armes chimiques.
Tension commerciale entre Washington et Pékin. Le président américain Donald Trump s'est dit convaincu dimanche qu'un accord sera trouvé avec la Chine pour éviter un conflit commercial. Le point avec Nicolas Pineau.
Oui, sur Twitter, Donald Trump a promis un superbe avenir pour les deux pays. Selon le président américain, je cite, « La Chine va retirer ses barrières douanières parce que c'est ce qu'il faut faire. Les taxes vont devenir réciproques et un accord sera trouvé sur la propriété intellectuelle. » Cet optimisme tranche avec les tensions économiques croissantes entre Pékin et Washington depuis que le 8 mars dernier, le président américain avait décidé d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Donald Trump avait ensuite réclamé d'autres taxes visant spécifiquement des importations chinoises en rétorsion au vol de propriété intellectuelle reproché à Pékin. La Chine avait alors déclenché des mesures punitives contre des produits américains, notamment le soja, exhortant les États-Unis à cesser leur intimidation économique. Dernière escalade en date, le président Trump a menacé de tripler les tarifs douaniers sur les importations chinoises, face à quoi Pékin a promis de nouvelles représailles. La Maison-Blanche s'est pourtant voulue rassurante face à cette escalade qui a fait reculer les bourses dans le monde depuis plusieurs jours. « Nous sommes en contact permanent avec eux », a dit Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Donald Trump.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Le Bénin et le Niger envisagent une coopération avec la Chine pour réaliser un ambitieux projet du chemin de fer ouest-africain actuellement au point mort. Il fait l'objet d'un imbroglio judiciaire depuis des années entre le groupe français Bolloré et la société béninoise Pétrolin qui revendique tous deux la concession. Ce projet représente 1000 des 3000 kilomètres d'une boucle ferroviaire devant relier la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. La Chine va injecter environ 60 milliards de dollars pour l'aide au développement des pays africains. Dubaï a investi en mars 42,5 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure et d'hôtellerie pour l'exposition universelle 2020. C'est la première organisée au Moyen-Orient. Ces projets comprennent notamment l'extension de l'aéroport international Al Maktoum dans le sud de la ville avec une capacité d'accueil de 160 millions de voyageurs par an. Les autorités s'attendent à ce que l'Expo 2020 stimule le marché de l'immobilier et le secteur de l'hôtellerie, créant jusqu'à 300 000 emplois. L'événement devrait attirer jusqu'à 300 000 visiteurs par jour à partir de son lancement en octobre 2020 et la moitié viendra de l'étranger.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, retour de la Coupe de la Confédération avec le tour de cadrage aller.
Oui, la dernière étape avant la phase de poule, une sorte de barrage entre les 16 qualifiés du tour précédent et les 16 clubs éliminés de la Ligue des Champions. Et parmi les repêchés, on retrouve les Ghanéens d'Adouana Stars qui ont été sans pitié devant les Malgaches de Fosa Junior, score 6-1. Bonne opération également pour les Maliens de Djoliba AC qui sont allés chercher une coupe victoire 1-0 au Nigeria face à MFMFC. 1-0 également pour la SEC d'Abidjan face aux Algériens de Ciel Belouizdad. Même score en faveur des Kenyans de Gormaya devant les Sud-Africains de Supersport United. Et puis victoire 2-0 des Soudanais d'Al Hilal face aux Nigériens d'Aqua United.
La suite des résultats avec la bonne opération du Raja de Casablanca.
Les Marocains ont signé une belle victoire de 2-0 sur le terrain de Zanaco. Victoire, mais à domicile cette fois-ci pour les Mozambicains de l'US Songo 3-1 face aux Soudanais d'Obeïde. 3-1 également pour les Sénégalais de Génération Foot aux dépens des Marocains de Berkane. Petit succès 1-0 pour la SV Club dans le duel 100% congolais qui l'opposait à la Mancha. Et puis en déplacement, l'autre club de Brazzaville, Kara, s'est incliné 1-0 face aux Éthiopiens de Saint-Georges, tandis que l'USM Alger s'est incliné de 1 au Nigeria face à Plateau United.
Élisée, Rayon Sport a aussi réalisé un bon résultat.
Effectivement Idrissa, les Rwandais ont signé une nette victoire de 3-0 face aux Mozambicains de Costa do Sol. Joli succès également pour les Tanzaniens de Young Africans, victorieux 2-0, des Éthiopiens de Wolaita Dicha. Même score pour les Ivoiriens de Williamsville contre les Équato-Guinéens de Deportivo Nefang. Pour le reste, notons les 2-0 un partout entre Bivest d'Afrique du Sud, Enimba du Nigeria et CF Mounana du Gabon contre El Masri d'Égypte.
Chez les femmes, le premier tour aller des éliminatoires de la CAN féminine 2018.
Et le Burkina Faso a sorti le grand jeu en venant à bout de la Gambie 2-1. Notons la bonne opération de la Côte d'Ivoire. Les filles de Clémentine Touré ramènent le 0-0 un partout du Maroc. Même score entre le Lesotho et le Swaziland. La Namibie a pris une avance de 2-2 devant le Zimbabwe.
Football toujours, le Tunisien Youssef Sakni est forfait pour le Mondial 2018.
Sorti sous blessure lors du match disputé par Al Douali, son club face à Al Shaili pour le compte de la dernière journée du championnat qatari, le milieu offensif de la sélection tunisienne de football Youssef Sakni est forfait pour la Coupe du Monde 2018. Selon Mosaic FM, il souffre d'une rupture des ligaments croisé du genou.
Athlétisme avec le marathon de Paris et le Kenyan Lonyangata remporte la 43e édition.
Comme l'an dernier, Paul Lonyangata s'est imposé hier dans la capitale française en 2h 6 minutes 21 secondes, 13 secondes de plus qu'en 2017. Il a devancé d'une dizaine de secondes ses compatriotes Matiou Kisorio et Ernest Ngeno. Chez les dames, la victoire est revenue à la Kenyane Betsy Saina en 2h 22 minutes 50 secondes au terme de son premier marathon. Allez, Idrissa, je vous laisse donner les résultats de la NBA, championnat nord-américain de basketball.
Indiana et Charlotte, 123 à 117. Philadelphie et Dallas, 109 à 97. Atlanta et Boston, 112 à 106. Memphis et Détroit, 130 à 117. Toronto et Orlando, 112 à 101. Utah et LA Lakers, 112 à 97. «
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le conseil d'administration de l'organisme gouvernemental américain Millennium Challenge Corporation, ou MCC, a donné son approbation finale pour la sélection du Togo pour un programme seuil, Threshold Program. Le pays disposera de 35 millions de dollars pour opérer des réformes dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, et aussi du droit foncier. Reportage de Kay Lawson, correspondante de VOA Afrique à Lomé.
C'est la première fois que le Togo va bénéficier d'une subvention émanant de la Millennium Challenge Corporation. Pour être sélectionné à ce programme seuil, le Togo a dû satisfaire à 12 indicateurs sur les 20 exigés par la MCC. Les réformes qui seront opérées sous ce programme concerneront le droit foncier et les technologies de l'information et de la communication. David Gilmour, l'ambassadeur des États-Unis au Togo.
Dans le secteur des TIC, le programme vise à améliorer l'accès des citoyens à des services TIC de haute qualité et abordables, en encourageant les investissements du secteur privé, en développant un régime réglementaire indépendant, en élargissant le service aux zones mal desservies et en augmentant l'utilisation des TIC. En ce qui concerne le régime foncier, le programme cherchera à élargir l'accès aux terres formalisées par la reconnaissance et la protection des droits fonciers légitimes dans 5 zones pilotes du pays. Il cherchera également à développer un cadre réglementaire pour mettre en œuvre le nouveau code foncier actuellement au Parlement.
En choisissant ces deux domaines, la MCC veut aider le Togo à supprimer les obstacles à la croissance et soutenir de meilleures opportunités économiques. Le droit foncier se réfère à la productivité agricole et par ricochet au développement, analyse Claire Kenom, présidente de la branche togolaise du réseau africain pour le droit à l'alimentation.
La terre est un moyen de production, surtout en milieu rural. Et l'accès à la terre garantit la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. On ne peut pas réaliser le droit à l'alimentation adéquate si le droit d'utiliser la terre n'est pas sécurisé et n'est pas respecté. C'est tout cet environnement propice pour le développement qu'il faut sauvegarder en défendant la terre.
En ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, la blogueuse Hamdia Kadireka espère que le débit de la connexion pourrait être amélioré très prochainement.
La connexion demeure un luxe actuellement au Togo. Et on ne peut pas mettre un article en ligne avec 50 mégabits. C'est pas possible. Du moins, moi, je n'y arrive pas. Parce que le débit de la connexion reste assez faible au Togo. Donc je dis vraiment merci aux USA et je prie vivement qu'on puisse élever le débit de connexion ici et de mettre ça à moindre coût pour que tout le monde puisse y avoir accès à la connexion et une connexion de qualité.
Sur la question de la connectivité, Stanislas Baba, responsable de la cellule MCC Togo, se veut rassurant.
Dans le secteur des télécommunications, la qualité, c'est d'abord avoir les meilleures technologies, un service universel, c'est-à-dire une accessibilité pour tous. Même si vous êtes en zone rurale, vous devez pouvoir accéder à l'offre des services Internet. Et enfin, c'est des prix abordables. C'est ça la qualité. C'est sur ces trois points que le programme Threshold va travailler.
Le programme seuil dont bénéficie le Togo va couvrir une période de 4 ans. En sélectionnant le Togo, la MCC a indiqué qu'elle suit de près les événements qui se passent actuellement dans le pays, avec un accent particulier sur les droits des citoyens à la liberté d'expression et d'association. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Cameroun, des enfants de 4 à 17 ans sont initiés à la programmation informatique, la création des jeux et la conception des applications, entre autres. Cela se passe à Douala et à Yaoundé depuis 2016 sous l'égide d'une start-up dénommée Genius Centers. Le talent des enfants y est certain, comme a pu le constater sur place le correspondant de VOA Afrique, Emmanuel Juntap.
C'est dans cet immeuble du quartier Bonamoussadi à Douala que la promotrice de Genius Center réunit les enfants passionnés par l'outil informatique. L'un d'eux, Malik, 10 ans, a créé son propre jeu sur ordinateur. En plus de savoir bien manipuler le langage informatique, sous le regard de ses proches, ébloui par son talent.
Ça, c'est un langage de programmation visuelle basé sur des blocs. gratuit et il y a une grande communauté en ligne sur Internet où vous pouvez créer vos propres histoires, jeux et animations interactives. Comme maintenant, je viens de créer mon propre jeu.
Chaque samedi, depuis quelques mois, William, 14 ans, se forme ici à la conception des applications. Des connaissances acquises au cours des sessions organisées par la start-up Genus Center. À l'actif de William déjà, une application en cours de finalisation.
Cette application permet à tous ceux qui ne connaissent pas des endroits précis de leur habitation qui peuvent les amener à un endroit où ils veulent, c'est ça les maps.
À peine quelques semaines de formation, Fatimatou, 7 ans, est dans l'atelier d'ingénierie robotique de Genus Center. L'oncle de Fatimatou, qui assiste à sa présentation, est fier d'elle.
J'ai fait une programmation pour un robot, c'est extraordinaire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'aider à avancer. Pourquoi pas réussir dans ces projets à venir?
Moyennant 10 000 francs le mois au cours de l'année scolaire et 60 000 francs mensuellement pendant les vacances, les sessions de formation sont organisées en modules sous la houlette de Thierry, ici à Douala, ingénieur en informatique à Genus Center.
Il y a les Scratch, il y a les M-Bot pour la programmation robotique. Déjà, quand il passe avec brio ces modules, à ce niveau, il peut déjà être éligible pour l'inscription maintenant dans les programmes comme le module de Mobile App, pour travailler sur APP Ventor et tout le reste.
La promotrice, Danielle Akini, ne cache plus sa joie de réussir petit à petit le pari qu'elle s'était fixé en mettant sur pied en 2016 cette start-up.
Je dois avouer que quand j'ai commencé, j'avais pas vu aussi grand. Ça grandit tellement que ça me surprend et je suis contente de voir ce que ces enfants arrivent à réaliser.
35 établissements scolaires à Douala et à Yaoundé sont partenaires de Genus Centers. À Yaoundé, il y a le centre éducatif de Bastos qui déroule depuis quelques semaines une session de formation pour des enfants de la ville âgés de 4 à 17 ans. Yaoundé, Emmanuel Julunta pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, ils sont environ 90 000 enfants à avoir été touchés par les violences en Ituri et plus de 30 000 ne vont pas à l'école selon l'UNICEF. Plus de 100 écoles ont été détruites et abandonnées dans le territoire de Djougou suite aux atrocités et massacres de la population civile dans cette région du nord-est de la RDC dans la province d'Ituri. Pour VO Afrique, Charlie Kasereka s'est rendu dans un camp de déplacés à Bounia. Son reportage.
Dans ces petits postes de santé érigés au milieu du camp où vivent plus de 10 000 personnes, une dizaine d'enfants attendent pour une consultation. Willy est infirmier permanent ici au poste.
Je peux dire par jour, au minimum c'est 68 enfants par jour. Quand on a un cas qui nous semble un peu compliqué, nous les référons à l'hôpital et la prise en charge est supportée par ce objectif de
diarrhée, infection respiratoire et paludisme sont les maladies fréquentes et surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Avec son bébé d'un an, Janine Zouzi attend comme les autres mamans.
Il a une forte fièvre et tousse à tout moment. Je pense qu'ici, il va avoir des soins et guérira. Malheureusement, nous n'avons pas toujours suffisamment de nourriture.
Ici au camp, certaines organisations humanitaires tentent d'occuper les enfants par des jets et des leçons d'alphabétisation. Dans un hangar, plus de 900 enfants sont accueillis et jouent sous les des accompagnateurs comme Vossi Siméon.
Nous sommes à 969 enfants qui ont fréquenté le centre. Nous organisons les activités psychosociales avec ces enfants. Nous organisons aussi les cours d'alphabétisation qui n'est pas un rattrapage scolaire formel. Nous avons aussi les enfants non accompagnés et au finish, nous facilitons aussi la réunification familiale.
Cela ne suffit pas pour des enfants qui étaient en terminale, pense David Lipalanga, déplacé et père de 4 enfants.
En restant ici, nos enfants prennent du retard dans leur éducation. Comme il n'y a ni école ni maison ici, toute une année scolaire risque d'être perdue. Rien n'est enseigné ici. Les enfants passent leur journée à déambuler et à chanter. Que les autorités facilitent notre retour avec des tôles pour reconstruire nos maisons et les écoles.
Le ministère provincial de l'enseignement en Ituri indique à VOA Afrique que plus de 430 enfants déplacés venus de Djougou n'arrivent pas à s'intégrer. Ils sont bloqués par la langue d'apprentissage qui est le français. Ils apprenaient dans la langue vernaculaire dans leurs écoles d'origine. Selon l'UNICEF, plus de 90 000 enfants sont affectés par les derniers conflits ethniques en Ituri. Ces chiffres n'est pas confirmé par le gouvernement congolais. Une centaine d'écoles ont été incendiées dans les territoires de Djougou. Charlie Kasereka, des retours de Bounia à Ituri pour VOA Afrique.
Pour terminer, au Burundi, tout autour du lac Tanganyika, plus de 15 hippopotames ont été tués depuis 2016, selon les sources environnementales. À la recherche de nourriture, ces hippopotames tombent dans des pièges tendus par les habitants de la ville de Bujumbura et de Bujumbura rural, qui y trouvent de la viande fraîche et gratuite, nous dit notre correspondant sur place, Christophe Kurunziza.
Il y a plus de 2 semaines, un hippopotame est tombé dans une embuscade. Des fosses de plusieurs mètres de large et de longueur étaient visibles à 10 kilomètres au sud de Bujumbura, dans la localité de Kabizi, sur la colline de Gakungwe. Les habitants avaient creusé ces fosses à la recherche des briques. L'animal en situation de détresse y a passé 3 jours de calvaire. Il a fallu l'intervention du directeur général de l'Office burundais de protection de l'environnement, qui a amené un tracteur à chenilles pour le sortir indemne de ces fosses et regagner ainsi son milieu naturel. Un autre hippopotame a été sauvé il y a 1 semaine au centre-ville de Bujumbura. Samuel Ndayiragije, directeur général de l'Office burundais de protection de l'environnement, reconnaît que la cohabitation entre les humains et ces hippopotames n'est pas au beau fixe.
Les relations sont très mauvaises. C'est pas seulement ici. Les gens, quand ils voient l'animal comme celui-là, ils voient seulement de la viande. Et ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour le tuer. Nous essayons d'enseigner les gens qu'ils doivent vivre avec ces animaux, mais ça viendra petit à petit.
Mais les riverains du lac Tanganyika demandent urgemment aux autorités burundaises de chercher un endroit où peuvent vivre ces hippopotames sans qu'ils portent atteinte à leur vie et à leur plantation. Témoignage de cet habitant de Kabizi.
Personnellement, je suis né près du lac Tanganyika. Ces hippopotames n'ont pas de bonnes relations avec les habitants. Ils détruisent les récoltes, ils mangent même certains habitants. Les autorités le savent. Ces hippopotames renversent même des gens qui sont dans des bateaux et les mangent. Pour les champs, ils mangent le manioc, le maïs et les habitants n'ont pas ce qu'ils ont semé. Nous demandons aux autorités de chercher un endroit propice où peuvent vivre ces animaux.
Même constat pour cet autre habitant de Bujumbura.
Les hippopotames détruisent beaucoup de choses. Ils montent même de l'autre côté de la route juste vers les montagnes. En fait, ils font ça parce qu'ils cherchent à manger. Ils sont à la recherche d'herbes. L'État doit chercher une place pour ces amphibies.
Samuel Ndayiragije, le directeur de l'environnement, espère que le code sur l'environnement sera respecter pour la bonne cohabitation des hommes et des animaux.
Il doit y avoir déjà plus d'une quinzaine quand même morts sur 2 ans, c'est énorme. Les animaux, ils étaient ici avant que les hommes et les femmes ne soient ici. Il faut qu'ils les acceptent comme les bons voisins d'ailleurs. S'ils ne sont pas agressés, ils ne sont pas du tout mauvais. Nous allons continuer à suivre l'application du code de l'eau qui exige qu'il y ait 150 mètres de zone de tampon au bord du lac Tanganyika et 50 mètres au bord des lacs du Nord.
Professeur Pascal Nakimazi, spécialiste en comportement des animaux aquatiques, estime que jusque vers les années 1990, tout le long du lac Tanganyika, jusque dans la plaine de la Rusizi, avec une végétation assez haute, constituait le pâturage des hippopotames. La construction des habitations dans cette zone a créé, selon lui, un conflit d'occupation entre les humains et les hippopotames. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'hypertension artérielle.
Qualifiée de tueur silencieux parce qu'elle ne présente généralement pas de symptômes, l'hypertension artérielle est l'une des principales causes de maladies cardiaques et d'AVC dans le monde.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Wesley Lumika, médecin traitant à la clinique médicale à Brèche en RDC. Il nous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie.
Nous écouterons aussi le témoignage de Jacques Mbongo, un hypertendu de 68 ans vivant à Lubumbashi en RDC. Il nous racontera sa vie avec la maladie.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.